Radio de la Paix. Il est 12h.
Le journal de midi.
Paul Bénédicte Bolo.
Il est 12h, bienvenue dans votre journal. Bonjour à tous, voici les titres de ce jeudi 11 avril. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro abrite ce jeudi 11 avril la rentrée solennelle 2019 du Sénat de Côte d'Ivoire. La cérémonie est présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire reformule certains aspects de son projet de loi portant code pénal sur les comportements criminels et ce pour être en conformité avec les lois internationales. On en parle avec le porte-parole du gouvernement au cours de cette édition. Un atelier de formation pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de même que les revenus des acteurs des différentes filières, s'est tenu récemment à Korogo. C'est une initiative du programme d'appui au développement des filières agricoles. Hors de nos frontières, la date de la présidentielle en Algérie enfin dévoilée. Le chef de l'armée se dit garant de la transition en cours. Malgré cela, la rue algérienne ne décolère pas. Elle continue de réclamer le départ de toutes les figures de l'ancien régime. Et puis juste après l'actualité internationale, nous aurons en fin d'édition comme invité de la rédaction le vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Maître Traoré Drissa. Il répondra aux questions de ce roi d'âme sur l'ordonnance du 6 août 2018 amnistiant 800 personnes en Côte d'Ivoire, voilà pour l'essentiel. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro abrite ce jeudi 11 avril la rentrée solennelle 2019 du Sénat de Côte d'Ivoire. La cérémonie sera présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Quels sont les enjeux de cette rentrée qui intervient après la récente nomination de 33 sénateurs restant en ligne de Yamoussoukro? La correspondance de Radi Razak Wilfried.
Mise en place en avril 2018, le Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien créée avec l'avènement de la Troisième République en 2016, va connaître toute sa plénitude lors de cette rentrée solennelle. Les 66 sénateurs élus qui ont œuvré à l'effectivité des organes de l'institution seront rejoints par les 33 derniers nommés il y a quelques jours par le président de la République. Avec les 99 sénateurs au grand complet, le Sénat va désormais exercer ses prérogatives dans le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale à travers l'évaluation des politiques publiques. C'est donc un moment capital de l'histoire de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rentrée, le président du Sénat, Aoussou Jeannot, présentera les grandes orientations de l'institution pour les 9 mois prochains. Le président de la République, Alassane Ouattara, va rehausser la cérémonie de sa présence, comme il l'avait déjà fait pour la rentrée solennelle en 2018. Yamoussoukro, Radi Razak Wilfried, la radio de la paix.
Conseil des ministres, l'évolution perpétuelle des comportements criminels dans nos sociétés pour être en conformité avec les lois internationales. La Côte d'Ivoire reformule certains aspects de son projet de loi portant code pénal. Pour en parler, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré.
Le premier projet de loi se propose en réalité d'extraire de l'arsenal juridique répressif ivoirien toutes les dispositions ne présentant plus une pertinence. Vous avez ce qu'on appelle la coaction, un terme juridique qui est abandonné dans tous les arsenaux judiciaires. L'interdiction de séjour a été remplacée par l'interdiction de paraître dans certains lieux. Le vagabondage a été retiré de ce nouveau code pénal. L'autre axe de ce nouveau code, la modification de la formulation de certaines dispositions. La définition des actes préparatoires de l'auteur et du complice d'une infraction. Et vous avez aussi la responsabilité pénale de la personne morale qui est désormais admise dans ce nouveau code. Nos juridictions répressives ivoiriennes ont maintenant compétence pour connaître des infractions commises en dehors du territoire national lorsqu'une victime est de nationalité ivoirienne. Sans oublier la reformulation de dispositions relatives à certaines infractions telles que le complot, l'attroupement, le mouvement insurrectionnel, le viol, l'attentat à la pudeur, l'abus de confiance, etc. Et enfin, le troisième axe de ce nouveau projet de loi, vous avez le maintien de groupes de combat dissous, vous avez l'intrusion d'armes dans les établissements d'enseignement, les traitements humains et dégradants qui sont adressés, la réduction à l'esclavage qui est une infraction nouvelle formulée à travers ce code, l'incrimination du travail dangereux des enfants.
Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias. Cohésion sociale et paix à Yamoussoukro, le Centre national pour l'éducation du caractère a présenté hier mercredi son plan d'activité pour le deuxième semestre de l'année 2019. Selon cette structure, la bonne éducation du caractère est fondamentale pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Lilaon Hortense, la présidente de ce centre, est au micro de Radir Azak Wilfried.
En 2019, nous allons préparer les activités à mener dans les écoles pilotes que nous avons choisies sur le plan national. Nous allons mettre à disposition des supports pour la vulgarisation de l'éducation du caractère, créer des opportunités pour tout citoyen d'éduquer son caractère, créer des cadres pour faciliter l'accès à l'éducation du caractère, former des formateurs à l'éducation du caractère, intégrer l'éducation du caractère dans le système éducatif. Nous allons aussi intégrer l'éducation du caractère dans le système de gouvernance, créer enfin une base de données, des modèles d'éducation du caractère. Et nous avons prévu d'organiser un concours pour nominer tous ceux qui embrassent l'éducation du caractère.
Alors dites-nous, pourquoi est-ce que c'est si important dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire qu'on puisse faire la promotion de l'éducation du caractère?
Nous avons quelquefois mal lorsque nous voyons que nous avons des valeurs, que ces valeurs-là sont battues en brèche. Nous sommes malheureux lorsque dans un village, on ne peut pas s'entendre pour faire le développement et on se divise. L'éducation nous appartient à tous. Nous devons nous-mêmes éduquer notre caractère. Parce que si tu veux en face que l'autre change, il faut que toi-même tu changes d'abord.
Lilian Hortense, président du Centre national pour l'éducation du caractère. Une délégation ivoirienne est arrivée hier mercredi 10 avril 2019 aux réunions du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI à Washington DC. La dite délégation est conduite par le Premier ministre ivoirien Amadou Koulibaly. À l'agenda de cette mission, des rencontres avec les hauts responsables du groupe Banque mondiale et d'autres partenaires au développement en vue de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de la finance et du développement international. Amadou Koulibaly présentera également aux investisseurs des potentialités économiques et de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Pour rappel, il faut dire que cette mission intervient après plusieurs évaluations positives sur la situation sociopolitique du pays par le FMI, le Millennium Challenge Corporation, MCC des États-Unis, le Doing Business de la Banque mondiale et l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance africaine. Nous l'annoncions en titre en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de même que les revenus des acteurs de différentes filières. Hier, un atelier organisé par le programme d'appui au développement des filières agricoles s'est tenu récemment à Korogo. Cet atelier de formation a enregistré la participation des experts de divers secteurs du développement rural. Témoin pour la Radio de la Paix, Marcel Bouny.
Quel est le contenu du programme d'appui au développement des filières agricoles? La réponse du coordonnateur Baïmé Auguste.
C'est un programme qui va couvrir les 5 régions du nord que sont la Bagoué, le Tchologo, le Poro, le Hambol et le Gbeke. Et ce projet va travailler essentiellement sur 3 filières agricoles, à savoir la mangue, le riz et les cultures maraîchères.
3 filières agricoles assorties de précisions sur les acteurs qui l'animent.
Dans ces régions, le programme envisage de toucher 32 500 ménages, soit environ 180 000 bénéficiaires, parmi lesquels nous allons cibler au moins 40% de femmes et 40% de jeunes, de 15 à 35 ans.
Qu'en est-il du financement? Odile Sarasoro, chargée de programme pour la Côte d'Ivoire au Fonds international du développement agricole, nous instruit.
Le FIDA va financer ce projet-là à hauteur de 15 à 14 milliards de francs CFA et le FIDA également a mobilisé les fonds de notre partenaire financier qu'on appelle l'OFID à hauteur d'à peu près 10 milliards de francs CFA, soit un total de plus de 43 milliards. L'État de Côte d'Ivoire va financer également à hauteur de 5 milliards et les bénéficiaires vont également financer à hauteur de 10 milliards.
Notons que ce programme ambitionne améliorer les conditions de vie des populations rurales des régions concernées avec un accent sur les femmes et les jeunes. Marcel Bonny, Korogo, la Radio de la Paix.
Rendons-nous à présent dans la région du Gontougo. Cette région pourrait bénéficier dans les mois à venir de l'implantation d'une zone agricole industrielle dédiée à la nacarde. L'information a été rendue publique le mercredi 10 avril, c'est-à-dire hier, à Bandoukou, à la faveur d'une rencontre initiée par l'Agence nationale de l'environnement. Rencontre ayant enregistré la participation des autorités administratives, politiques et coutumières, des organisations de la société civile et des producteurs de noix de cajou. Des détails avec vous, Émile Yao.
Cette rencontre, selon Bras Dominique de l'Agence nationale de l'environnement, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation environnementale stratégique de ce projet d'implantation d'une zone agro-industrielle dédiée à la nacarde dans le Gontougo.
Il est question pour le ministère en charge de l'environnement et notamment pour l'Agence nationale de l'environnement de convoquer tous les partenaires, tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour donner l'information. D'abord, que ce projet va avoir lieu dans la localité de Bandoukou, mais aussi de recueillir les avis, les préoccupations, les observations de toutes les populations. Parce que tout projet peut générer des impacts. Et ces impacts-là, il faut l'expliquer aux populations pour que demain, le projet ne soit pas bloqué.
Au terme de plusieurs heures d'échanges directs et francs, les différentes parties ont entièrement adhéré à l'idée de ce projet. Mbra Dominique.
Les populations se sont prononcées sans retenue. Et les questions qui ont été posées ont eu des réponses, puisqu'à la fin, tout le monde a adhéré au projet.
Une adhésion symbolisée par le conseiller municipal Aye Alain, représentant le maire de Bandoukou, à la rencontre.
L'implantation de cette zone industrielle à Bandoukou, ce serait une occasion de pouvoir booster l'économie locale avec la création d'emplois, la possibilité d'accroître les ressources de nos parents producteurs, premier maillon de cette chaîne de valeur. Donc je voudrais vraiment saluer le gouvernement ivoirien pour tous ses efforts qu'il fait pour donner de la valeur à cette culture-là qui reste la seule richesse de notre région.
Même si ce projet a été annoncé, aucune date n'a été cependant précisée quant à sa mise en œuvre. Émile Yao, Bandoukou, Radio de la Paix.
Université de Mans, l'heure était au bilan hier mercredi 10 avril, bilan du premier semestre de l'année académique 100 ans. Président de l'Université de Mans, le professeur Koulibaly Lassiné a salué une progression satisfaisante en ce que le calendrier académique du semestre a été respecté. Là-dessus, nous l'écoutons.
Nous avons dit que nous avons commencé en octobre, comme nous le signalons au cours du point de presse, et que nous avons tous les enseignements en ce qui concerne les deuxièmes années, les troisièmes années et les premières années ingénieurs ainsi que les deuxièmes années de classe préparatoire. Sur ce point, c'est une progression satisfaisante puisque nous bouclons ce semestre avec le respect du calendrier académique. Relativement aux premières années, compte tenu du petit retard qui a consisté leur affectation, nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à vendredi, nous allons finir donc les enseignements. Nous allons leur donner les congés de Pâques pour les révisions et au retour des congés de Pâques. Ils finiront aussi de composer dans leur première année, dans leur premier semestre. Donc c'est une bonne progression et ça nous donne espoir de pouvoir respecter encore cette année le calendrier académique.
Professeur Koulibaly Lassiné, président de l'Université de Mans. En page internationale, au Soudan, c'est un véritable coup de tonnerre. Le président Omar El-Béchir a été placé aujourd'hui en résidence surveillée, tout comme plusieurs chefs des frères musulmans, a rapporté la chaîne de télévision Al-Adad. Cette chaîne, basée à Dubaï, a précisé que l'information lui venait du fils du dirigeant de l'opposition soudanaise, Sadiq Al-Mahdi. Un peu plus tôt dans la journée, plusieurs sources gouvernementales à Khartoum avaient déclaré qu'Omar El-Béchir avait été contraint à la démission et que des consultations étaient en cours pour former un conseil de transition au pouvoir depuis 1989. Le président soudanais a démissionné d'après plusieurs sources gouvernementales. Des milliers de manifestants sont rassemblés depuis 6 jours devant le siège de l'armée qui abrite également la résidence officielle du chef de l'État. Toujours en page internationale, en Algérie, la date de la présidentielle est maintenant connue. Le scrutin se tiendra le 4 juillet prochain. Annonce faite hier mercredi par le nouveau chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Le chef de l'État-major de l'armée a réagi. Il se porte personnellement garant de la période post-Bouteflika. C'est ce qu'a déclaré le général Ahmad Gaïd Salah. Des propos loin d'apaiser les manifestations dans les rues. Les manifestants sont catégoriques. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il continue de réclamer le départ de toutes les figures de l'ancien régime de Abdelaziz Bouteflika. Trois organisations des droits de l'homme, toujours opposées à l'ordonnance du 6 août 2018, amnistiant 800 personnes, dont Simone Gbagbo, poursuivies pour leurs responsabilités présumées dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011. Il s'agit de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et du mouvement ivoirien des droits humains. Le jeudi 4 avril dernier, ces trois ONG ont saisi la Cour suprême de Côte d'Ivoire pour demander l'annulation de l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018 signé par le bureau du président de la République, avocat au barreau de Côte d'Ivoire et vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, maître Traoré Drissa, fera toute la lumière sur le pourquoi de leur requête auprès de la Cour suprême. Maître Traoré Drissa est aujourd'hui l'invité de la rédaction de la Radio de la Paix. C'est un entretien mené par Soro Adams.
Bonjour Maître Traoré Drissa.
Bonjour Monsieur Soro.
Une ordonnance d'amnistie, qu'est-ce que c'est ?
Une ordonnance d'amnistie, c'est une décision que prend le chef de l'État seul pour décider que des faits qui ont été commis, que ces faits-là ne peuvent plus être poursuivis en justice pour condamner les personnes à des peines d'emprisonnement.
Une décision que prend le chef de l'État seul, vous avez dit ?
Oui. Parce que en temps normal, et ce que prévoit notre Constitution, c'est que l'amnistie ne peut être prise que par l'Assemblée nationale, après discussion. Mais dans ce cadre-là, c'est le chef de l'État seul qui a pris, et cela n'est pas de son pouvoir. Pour nous, cette ordonnance est illégale. Parce qu'avant que le chef de l'État ne prenne une ordonnance, il devrait être habilité par l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le cas dans ce qui concerne les amnisties. Et lorsqu'il est habilité avant, après, l'Assemblée nationale ratifie. Mais dès l'instant où, pour nous, la base n'a pas été respectée, même une loi de ratification plus tard ne peut pas venir effacer l'illégalité.
Alors, il n'y a que le 6 août 2018, le chef de l'État a annoncé la décision d'amnistier des personnes en lien avec la crise post-électorale. Alors, ça veut dire que cette ordonnance du chef de l'État n'est pas valable ?
Non, elle est exécutée puisque les personnes en ont bénéficié. Mais nous estimons, pour nous, qu'elle ne devrait pas pouvoir être exécutée, elle ne devrait pas être valable, et donc il faut revenir dessus. C'est pourquoi le 4 octobre 2018, comme la loi nous donne la possibilité, nous avons saisi le chef de l'État lui-même pour lui demander d'annuler l'ordonnance d'amnistie. Il a gardé le silence pendant 4 mois et dans ce cas-là, la loi nous dit que si l'autorité qui a été saisie garde le silence pendant 4 mois, c'est comme si cette autorité a décidé de ne pas accéder à notre demande. Et donc nous avions 2 mois pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait le 4 avril, nous avons déposé notre requête au fin d'annulation de l'ordonnance d'amnistie devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Et qu'en attendez-vous exactement ?
Nous attendons que la chambre administrative de la Cour suprême dise que le chef de l'État n'avait pas le pouvoir, la qualité de prendre une ordonnance d'amnistie et donc d'annuler cette ordonnance-là parce que nous estimons que pour avoir une paix durable, pour avoir une réconciliation sincère, il faut que les personnes qui ont commis des actes graves puissent être sanctionnées, que leurs responsabilités au moins soient reconnues pour que les victimes sachent ce qui s'est réellement passé et puissent passer à autre chose. Mais si la vérité n'est pas sue, si les personnes ne sont pas sanctionnées, on risque de reconnaître d'autres violences. Je voudrais simplement rappeler que dans l'ancienne constitution de 2000, il y avait des dispositions portant amnistie des membres du CNSP. En 2003, après le déclenchement de la crise armée, il y a eu une loi d'amnistie. En 2007, il y a eu une autre loi d'amnistie. Malgré cela, nous avons connu la crise post-électorale. Ça veut dire que les amnisties n'apportent pas la paix. Et l'autre remarque, c'est que malgré le fait qu'on était en pleine crise en 2003 et en 2007, les lois d'amnistie prévoyaient clairement que n'étaient pas amnistiées les violations graves des droits de l'homme, les crimes internationaux. Ce qui laissait toujours la possibilité pour ceux qui ont commis les crimes les plus graves d'être poursuivis. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. En conséquence, nous avons bon espoir, nous avons confiance à la justice. Nous espérons que la justice va nous recevoir, va nous entendre et faire en sorte que justice soit rendue pour ces victimes de la crise ivoirienne.
Alors, l'ordonnance prise par le chef de l'État a été exécutée. Que voulez-vous exactement? Est-ce que la chose aujourd'hui est attaquable?
Oui, il faut rappeler que poursuivre quelqu'un n'est pas obligatoirement de l'arrêter et de le mettre en prison. Mais nous pensons qu'il faut laisser la justice faire son travail. Et en le disant, nous nous positionnons dans ce qui avait été l'engagement du chef de l'État avant le 6 août 2018. Dans chacune de ses interventions, le chef de l'État était clair et précis. La justice fera son travail, personne ne sera protégé, tous ceux qui ont des choses à se reprocher seront poursuivis. C'était ça l'engagement du chef de l'État et aujourd'hui, les victimes sont déçues. C'est pour ces victimes-là que nous agissons et c'est pour une paix durable en Côte d'Ivoire, c'est pour un état de droit que nous agissons. Nous sommes tous d'accord avec le chef de l'État qu'il faille aller à la paix, qu'il faut la réconciliation, mais la réconciliation doit se faire sur la vérité, sur la justice. Sinon, on va construire un château de cartes qui risque de s'écrouler et qu'on ait encore d'autres victimes.
Je vous remercie, Maître Traoré Drissa.
C'est moi qui vous remercie.
C'est sur cet entretien que nous refermons cette édition, mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro abrite ce jeudi 11 avril la rentrée solennelle 2019 du Sénat de Côte d'Ivoire. La cérémonie sera présidée par le président de la République Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire reformule certains aspects de son projet de loi portant code pénal sur les comportements criminels et ce, pour être en conformité avec les lois internationales. On en parlait il y a un instant avec le porte-parole du gouvernement au cours de cette édition. Un atelier de formation pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de même que les revenus des acteurs de différentes filières, s'est tenu récemment à Korogo. C'est une initiative du programme d'appui au développement des filières agricoles. Hors de nos frontières, la date de la présidentielle en Algérie enfin dévoilée. Le chef de l'armée se dit garant de la transition en cours. Malgré cela, la rue algérienne ne décolère pas. Elle continue de réclamer le départ de toutes les figures de l'ancien régime.